congolaise Kinshasa est de plus en plus confrontée à une insécurité grandissante. Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025, un père de famille a été assassiné à son domicile au quartier Massangambila dans la commune de Mongafula par des braqueurs. Certains étaient en tenue militaire selon des témoignages. Ce cas s'ajoute à une série d'incidents similaires enregistrés ces dernières semaines à Kinshasa. De nombreuses familles déplorent la perte des biens matériels et des proches victimes de cette criminalité en hausse. Face à cette situation, plusieurs habitants et organisations de la société civile appellent les autorités à prendre des mesures urgentes pour renforcer la sécurité et protéger la population. Comment analyser cette hausse de la criminalité et quelles mesures prendre pour la freiner? Participe au débat de ce soir Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Jonas Tchombela, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alidor Tshibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale. Alidor Tshibanda, bonsoir.
Bonsoir, madame Kildou.
Et Mathieu Takizala qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est analyste et entrepreneur. Tous nos efforts pour avoir une autorité provinciale dans cette émission sans rester vain. À Mongafula, vous nous suivez sous la 103.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV Canal 800. 67. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
La vague des criminalités continue de frapper Kinshasa. Le dernier drame en date s'est produit dans la nuit du 11 au 12 septembre où un père de famille a été abattu chez lui dans la commune de Mongafula. Une mort violente qui souligne une inquiétante recrudescence de l'insécurité en dépit des opérations de sécurité menées par la police. Enoch Katumbi.
À Kinshasa, l'insécurité continue de faire des victimes. Un père de famille a été tué par balle dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025 dans le quartier Massangambila. Selon les témoins, des hommes armés vêtus de tenues militaires ont fait irruption dans sa parcelle. Le père de famille a été la cible directe des assaillants et s'est effondré sous leurs coups, sous les yeux de ses proches. Cet acte d'une extrême violence a semé la panique dans tous les voisinages. Ces drames s'ajoutent à une série de braquages et de vols à main armée qui se multiplient ces dernières semaines dans la capitale. Cette situation est autant plus préoccupante que les autorités ont lancé plusieurs opérations pour sécuriser les quartiers les plus proches. Dans la commune de Mongafula, l'opération Zero Kuluna a pourtant déployé des patrouilles mixtes, des polices et de l'armée. Parallèlement, l'opération Dobo cible d'autres fauteurs de troubles nocturnes dans différentes communes. Malgré ces efforts, les actes de violence se poursuivent, alimentant un sentiment de peur croissant au sein de la population.
Merci Enoch Katumbi, Jonas Tchombela. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise qu'à la capitale congolaise Kinshasa, de plus en plus confrontée à une insécurité qui préoccupe quand même la population. Le dernier drame en date s'est produit la nuit du 11 au 12 septembre où un père de famille a été abattu chez lui à la maison dans la commune de Mongafula. Plusieurs opérations sont menées par les forces de l'ordre, la police et l'armée pour essayer de freiner un peu cette insécurité grandissante dans la capitale. Mais malgré cela, on a l'impression que ça ne marche pas ou ça ne fonctionne pas. D'abord, comment vous analysez le fait que de plus en plus la population se plaint de cette insécurité à Kinshasa?
Merci pour la question combien pertinente qui touche à nos vies. Aujourd'hui, le phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa est devenu une réalité quotidienne. Attaque dans les quartiers, insécurité dans le marché, route, arrêt de transport, la population vit une peur permanente et constante, ce qui fait que ce phénomène commence à devenir très inquiétant avec le cas que vous venez de prouver. Parce que les armes qui sont engagées pour ralentir ou soit anéantir ce phénomène ne touchent pas au vrai problème. C'est les causes. On s'attaque aux conséquences, mais on ne sait pas aller très loin avec la logique pour s'attaquer aux causes. Et j'en trouve ici trois essentielles. Les causes sociales, économiques, c'est-à-dire le chômage massif de jeunes, à Kinshasa n'est plus à compter, la pauvreté généralisée dans des familles, survie, absence de perspective, absence même d'une politique nationale d'encadrement de la jeunesse. Vous voyez tous ces éléments. La deuxième, tant de causes politiques et institutionnelles. La faiblesse de l'État et de la police, manque de moyens, la corruption, infiltration de la criminalité dans certains services de sécurité, justice inefficace, impunité de mal et la corruption, comme je venais de l'évoquer, instrumentalisation politique. Rappelez-vous, pendant la période de campagne électorale, les politiciens utilisent ces hommes et ces femmes pour leur campagne ou attaquer les ailes. Donc, c'est devenu presque comme un métier. Enfin, les causes culturelles et urbaines, perte de repères, de valeurs, ça effrite le rôle des familles et des communautés dans l'urbanisation des quartiers. Vous voyez que les quartiers sont mal construits, l'absence d'électricité, et voilà, autant d'éléments. On ne s'attaque pas à ces éléments-là, mais on s'intéresse d'abord aux causes. Ce qui fait que l'État n'arrive pas et l'État est devenu impuissant. Par moment même, subit la loi de ses inciviques avec sa complicité, comme dans la complicité de la justice dans certains cas. Je ne dis pas que dans tout le cas, mais je pense que voilà autant d'éléments qui font que ce phénomène ne recule pas, parce que finalement, c'est devenu comme une sorte de valorisation de ces hommes, de ces femmes qui ont choisi le métier de terroriser les autres, de tuer. Et pour eux, c'est un moyen de survie. Voilà, l'État, s'il veut s'attaquer à ce phénomène, il doit s'attaquer à la fois et aux causes et aux conséquences que cela pose. Et cela nous amènera quand même à résorber cette tension qui devient de plus en plus inquiétante dans notre communauté.
Alors, des opérations policières et militaires sont menées pour maîtriser ce phénomène dans la capitale Kinshasa. Est-ce que vous constatez, par exemple, des failles dans les dispositifs de sécurité mis en place par les autorités, ce qui expliquerait que qu'on n'arrive pas à maîtriser ce phénomène, Jonas Tshombela? Est-ce qu'il faut il y a des failles qu'il faudrait corriger?
Oui, mais parce que le fait, c'est d'abord que l'absence d'une approche globale, c'est déjà une sorte de faille. On traite les symptômes au lieu de s'attaquer aux causes aussi. Ça, c'est déjà une faille qu'il faut corriger très vite. Mais maintenant qu'il y a aussi la corruption, la complicité de certains éléments de la police qui collaborent avec le Kuluna, parfois même le service de renseignement, les Kuluna sont devenus leur source d'information. Donc, vous voyez, cette complicité, dans certains cas, devient de plus en plus très dangereuse pour que nous puissions combattre ce phénomène avec beaucoup plus d'efficacité. La justice elle-même, elle est défaillante. Donc, il y a cette faiblesse de la justice qui est un autre élément. On peut aujourd'hui mettre quelqu'un en prison et demain, on le retrouve encore dans la rue, dans les mêmes conditions. Mais aussi, la population elle-même aussi. Il n'y a pas de plaignant. Quand une Kuluna est arrêtée, s'il n'y a pas un plaignant, la justice ne demande pas qu'on le garde. Il faut qu'il y ait un plaignant pour qu'on puisse le relâcher. Donc, manque d'un programme de réinsertion, ça pose toujours des problèmes. Donc, les dispositifs de sécurité doivent être revus, allais-je dire. Je pense même qu'on doit faire les états généraux de la lutte contre la criminalité dans nos centres urbains. Peut-être que de là pourra sortir une solution plus efficace, mais qui prend en charge la question de façon globale. Pas s'attaquer aux symptômes, mais s'attaquer également aux causes qui amènent ces jeunes gens et ces messieurs qui ont pour métier tuer et violer.
Alidor Tshibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale, UPEN en sigle. Je rappelle en passant que vous avez été bourgmestre de la commune ou des communes de Bumbu, Kinshasa et Mongafula. Avec votre expérience à la tête de ces communes, Alidor Tshibanda, quelles sont les principales difficultés à gérer la sécurité au niveau local?
Merci beaucoup. Il faut d'abord prendre le problème de violence à deux niveaux, en partant de leur mode opératoire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il faut comprendre que le phénomène de violence, c'est un phénomène très dynamique, qui est en perpétuel mouvement, et qui procède par des mutations à chaque moment. Et que les agents de sécurité et de défense viennent suivre le mouvement qui évolue de manière très permanente. Je prends par exemple, si vous prenez la situation actuellement à Kinshasa, on a connu depuis 2005-2006 l'apparition du phénomène Kuruna. Avant, il y avait d'autres phénomènes que je ne saurais pas évoquer. Mais ce phénomène est en train d'évoluer et aujourd'hui, nous assistons à une autre forme de violence. Avec les phénomènes de cambriolage en pleine journée, où nous avons des motards, nous avons même des véhicules avec des catchs. Donc, c'est une nouvelle mutation que le phénomène de violence vient de connaître. Alors, si nous abordons le problème de violence en ne sachant pas comment les dissocier, il nous sera difficile de bien le comprendre et bien analyser. Je voudrais d'abord partir sur ce pied-là. Parce qu'aujourd'hui, on utilise les armes. Qui utilise les armes? Qui détient les armes? Où est-ce qu'ils prennent les armes? Pour venir poser des actes de violence dans les cités. Donc, c'est d'abord la première question que nous devons nous poser avant de savoir comment résoudre ce phénomène-là. Qui donne les armes aux brigands pour qu'ils continuent à poser des actes? Alors, revenons sur la question que vous venez de me poser, celle de savoir les difficultés que rencontre le bourgmestre dans la traque de Kuruna. Le bourgmestre a comme bras séculier pour s'attaquer au Kuruna la police territoriale. Mais cette police territoriale-là souffre de plusieurs maux. Il y a d'abord le problème d'effectifs. Kinshasa, c'est une mégalopole de plus de 20 millions d'habitants. Lorsque il n'y a pas d'effectifs, il n'y a pas la logistique n'est pas adaptée, ils n'ont pas de moyens de locomotion de transport, cet ensemble de problèmes peut générer des difficultés dans la traque de Kuruna. Parce que, prenons par exemple, vous êtes à Bumbu. Vous devez quitter la maison communale pour aller traquer le Kuruna au niveau d'un autre quartier, je prends quartier Fimi ou quartier Mungala. Ce quartier-là est enclavé. Comment le temps que les policiers vont quitter de leur poste vers le lieu de travail, les jeunes gens auront déjà posé des actes et seraient déjà partis.
Mais il y a quand même des soucis. Il y a beaucoup de soucis dans les communes, Monsieur Tshibanda.
Mais quand vous appelez, je ne sais pas si vous avez déjà appelé au secours à un soucis, ils vous disent toujours qu'il y a soit un seul élément, il ne peut pas abandonner le poste. Peut-être qu'il n'a pas de munitions. Donc, tous ces éléments-là concourent à l'exacerbation de la violence. parce que la prise en charge devient déficitaire. Donc c'est le premier problème. La prise en charge n'est pas adaptée à la nature du phénomène et à l'environnement où se posent les actes de violence. Il y a disproportionnalité des moyens et des actes posés. Donc le problème de prise en charge devient très récurrent et difficile à résoudre dès lors qu'on doit se mettre à traquer le Kuluna. Donc le pouvoir public doit d'abord... Pourquoi le co-débatteur venait de dire qu'il y a un problème de la faiblesse de l'État? Le pouvoir public doit d'abord travailler sur l'efficacité des éléments de défense et de sécurité pour pouvoir s'attaquer aux problèmes lorsqu'ils se posent.
Merci Mathieu Takizala, vous êtes analyste et entrepreneur. Comment vous expliquez cette hausse de la criminalité à Kinshasa alors que la ville a connu des périodes quand même assez des calmes relatifs?
Bon, je pense que M. Tchombela vient de soulever l'une des problématiques de la ville de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a une démographie de 65% de la population jeune, mais cette population jeune, c'est la première population qui est touchée dans le chômage de masse. Nous sommes une ville avec 24 entités administratives décentralisées, mais il n'y a que deux où on peut trouver l'activité salariale professionnellement, Limété et Kalina, qu'on appelle aujourd'hui Gombe. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de politique de l'employabilité de jeunes, même les étudiants, normalement en période de vacances. On doit quand même organiser des étudiants pour avoir le stage à Kinshasa. Et ces mouvements se développent beaucoup plus dans des milieux urbains lorsqu'il y a du chômage de masse. Vous savez qu'on a connu beaucoup de crises en République démocratique du Congo, mais on n'a jamais relancé l'outil productif. Là où il y avait des entreprises, aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, la ville de Kinshasa, une ville qui a une population de 20 millions presque, mais l'outil productif est absent. Vous savez que le taux de chômage de la ville de Kinshasa, il n'y a pas de statistiques. Les entreprises qui sont dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de politique saine pour accompagner nous les entrepreneurs, pour que nous puissions éradiquer. Quand vous voyez New York des années dernières, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait aussi ces mouvements dans des quartiers populaires. Ou qu'est-ce qu'on fait? On crée des zones franches urbaines avec une fiscalité réservée quand des entreprises s'installent dans ce coin pour qu'on puisse créer de l'emploi dans des villes. En France, pareil. Ils ont créé des programmes, parce que quand vous prenez par exemple Sarcelles, vous prenez Corbeil-Essonne, vous prenez Viry-Châtillon, vous prenez toutes les villes des banlieues parisiennes, touchées quand même la population migratoire, quand l'usine s'est délocalisée en Chine et en Inde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même à Lyon, Villeurbanne, il fallait créer des zones franches urbaines. Ça veut dire que on pousse l'entreprise à s'installer dans ces zones. Quand vous êtes à Kinshasa, est-ce qu'il y a des entreprises à Kinshasa? Quand vous êtes à Bumbu, mon compatriote, le co-débatteur, ancien Boukroumès, est-ce qu'il y a vraiment, il y a une politique au sein de cette commune de Bumbu pour créer de l'entreprise? C'est uniquement l'informel qui comptable. Et la plupart des familles, quand on construit l'outil des quartiers, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous voyons uniquement des bâtiments de dortoirs où les gens dorment. Il n'y a même pas les terrains de football, ni la bibliothèque, ni l'entreprise, tout ça, ainsi de suite. Et tous ces jeunes gens-là, beaucoup quittent même la partie. Si on investissait beaucoup d'argent, madame, du côté de l'entreprise, on va éradiquer ces causes. Parce que nous investissons uniquement par la formation. Mais après avoir la formation, logiquement, on doit juger le marché de l'emploi. Ok, l'entreprise est depuis 72 jusqu'à aujourd'hui en démocratie du Congo, il n'y a pas vraiment de soutien clair et net pour l'entreprise. La plupart des familles aujourd'hui n'ont pas de revenus. Qu'ils soient Mongafula, Ngaba, Bumbu, Kisensu, tout ça, ainsi de suite, trois quarts des familles, il n'y a pas de travail. Et ces jeunes gens ont que la rue pour s'exprimer. Maintenant, il faut une école de deuxième chance. Une autre erreur qu'on a fait en démocratie du Congo, que le métier qu'on pouvait sauvegarder ou encadrer ces jeunes gens, on a sous-estimé le métier de peintre, le métier, c'est ça l'école de deuxième chance, les métiers de mécanicien, le métier d'électricien, le métier de boulanger, tout ça, ainsi de suite. On a créé une société uniquement à faire croire aux gens qu'il faut tout le monde soit bureaucrate ou ainsi de suite. Et ça marche plus, ces modèles. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même un jeune homme à l'université voit qui ? Il voit être député, ministre, ainsi de suite. Donc, on montre pas aux gens la valeur travail. Et on pousse plus les entrepreneurs dans ce pays. Il y a beaucoup de slogans. Il faut qu'on passe dans le réalisme. Parce que ces fléaux, il n'y a pas qu'uniquement envoyer la police, comme les compatriotes co-débatteurs disent. Il y a aussi l'instrument social, la sociabilité des uns et des autres, c'est le travail. Sans travail, comment voulez-vous que ces jeunes-là soient quantuplés ? À un moment, on voit les buvettes dans tout le coin. Ben, l'alcool est vendu dans ces pays, même par les adolescents achètent l'alcool. Ça, c'est ça le vrai problème. Et que à chaque fois, aujourd'hui, le gouvernement actuel, parce qu'on dit le ministère de la jeunesse, on doit prendre les jeunes, mais non, c'est une politique, il faut une politique claire pour ce secteur. Aujourd'hui, la plupart des jeunes gens, la délinquance juvénile, c'est faute à quoi ? Le travail est absent. L'entreprise n'est pas accompagnée. L'entreprise n'est pas financée. On parle pas de chômage de ces jeunes gens-là. Alors, comment voulez-vous ?
Alors, on parle, on dit souvent que le contexte socio-économique est à la base de ce phénomène de Kuluna, ce phénomène Kuluna, ou à la base de la hausse de la criminalité. Concrètement, de quelle manière la pauvreté et le chômage alimentent la criminalité ?
L'homme doit être occupé, madame. Vous voyez, nous sommes occupés dans ce studio. Mais malheureusement, vous voyez tous ces jeunes gens, toutes ces populations. Visitez le faubourg de Kinshasa. Vous allez voir que non, il n'y a pas de règles. Et ces jeunes gens-là forment maintenant cette guérilla urbaine que nous appelons Kuluna.
Mais l'État donc tout ça.
L'État doit essayer de l'anténoir qui peut éradiquer. L'État doit financer l'entreprise dans la ville de Kinshasa. Si l'État ne finance pas les entreprises, aujourd'hui les partis politiques prennent ces jeunes gens-là, ils mettent les t-shirts. Ça, c'est pas une solution. Il y a des jeunes gens, le fils qui a un t-shirt d'un parti politique, même la police ne peut pas dire non. C'est ça le vrai problème. Qui on peut recruter dans des partis politiques ? Ça doit être des gens quand même avec une profession. Mais aujourd'hui, c'est encore ces jeunes gens qu'on récupère à mettre des t-shirts dans nos villes. Ça, c'est pas une solution. Mais je crois qu'il y a une solution aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans la ville d'abord. C'est dans tous les secteurs. Il faut maintenant accompagner ces entreprises qui sont présentes dans la ville de Kinshasa en s'installant dans ces coins, en disant oui, voilà par exemple l'entreprise que je préside, si ils vont s'installer à Bumbu, on dit que la moitié du salaire soit subventionné par l'État. Et que l'État aussi prend le marché, il donne à l'entreprise. C'est comme ça les autres États ont éradiqué le phénomène de la délinquance juvénile. Mais aujourd'hui, et puis avec une répression, parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a qu'un seul prison dans la ville de Kinshasa. Une population de 20 millions d'habitants. Combien de régimes ont passé ici ? Il faut construire des prisons. Il faut que les gens puissent avoir peur. Il faut qu'on arrête les gens. S'il y avait même le système d'allocation où on finançait les foyers modestes, en France, on coupe les revenus de la famille parce que l'enfant est voyou. Mais ici, vous allez couper comment ? Les gens n'ont même pas un compte bancaire, madame. Il n'y a même pas une boîte aux lettres. Comment on peut traçabiliser les gens ? Il n'y a pas la carte d'identité. La démographie des jeunes, c'est par les estimations. C'est ça le vrai problème. L'ONEM, qui devait maintenant qu'on puisse savoir chaque quartier combien d'enfants qui ne sont pas occupés, qui sont au chômage. Cet office de l'emploi, qui ? On ne sait même pas et combien il est financé, comment on fait. Là, on a une session qui est budgétaire. Est-ce qu'on pense dans le financement de l'entreprise pour que ces jeunes gens puissent être quand même encadré.
Merci Mathieu Takizala. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur Facebook, YouTube et notre compte X. Merci à Hubert Kabeya qui nous écrit depuis Kananga dans le Kasaï central. Il pense que l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa est due à une augmentation du taux de chômage et de la pauvreté. En effet, l'État congolais doit se rassurer de la moralité de toute personne à qui il remet une arme à feu. Merci à Daniel Mangazi. Vous nous suivez depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Hop Chijabi Mugarukia, en droit international et particulièrement en droit de l'homme, l'État ou la puissance publique a trois obligations traditionnelles et la protection de la population en fait partie. Et voilà, il nous écrit depuis la ville de Bukavu au sud Kivu. Merci à Michel Elenga Bakonga qui nous suit aussi. Emery Baloukou, Biamungu Kayumbu, vous êtes à Goma, au nord Kivu. Le gouvernement devrait prendre au sérieux ce problème des Kuluna dans la capitale congolaise qui risque de se transformer en une armée privée de certaines ambitions politique. Toutefois, le système de blocage devrait commencer dans toutes les 24 communes pour éradiquer définitivement ce phénomène. Place au standard pour écouter aussi ceux qui sont en ligne au téléphone, qui veulent donner leurs avis. On va aller à Lubumbashi dans la province du Katanga pour écouter cet auditeur.
C'est Mutamba Lanyange, bienvenue depuis la ville de Lubumbashi. La montée de la criminalité à Kinshasa n'est plus un fait isolé, mais une menace nationale. Lorsque le braqueur opère en uniforme militaire, c'est l'autorité de l'État qui vacille. Cette insécurité trouve ses racines dans le chômage, la pauvreté, l'impunité et la complicité au sein des mêmes forces de l'ordre. Elle plonge les familles dans la peur, détruit la confiance et étrangle l'économie urbaine. Il est urgent d'agir et vite. D'abord, renforcer les renseignements de proximité avec l'appui des comités de quartier. Ensuite, traquer et sanctionner sans faiblesse les infiltrés dans la police et l'armée. La justice doit frapper fort avec des procès publics exemplaires contre les criminels. Parallèlement, offrir aux jeunes des alternatives, emploi, formation et insertion. La sécurité, ce n'est pas seulement des armes. C'est aussi de la gouvernance et de la prévention. Kinshasa a besoin d'un État protecteur qui inspire confiance. Protéger les Congolais, c'est aujourd'hui le premier acte du patriotisme.
Jonas Tchumbela, vous venez de suivre cet auditeur de Lubumbashi qui propose des pistes pour freiner la hausse de la criminalité dans la capitale Kinshasa, notamment renforcer les renseignements de proximité avec l'appui des comités des quartiers. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'adhère totalement à sa vision et ses explications parce que là, il me rejoint pas mal sur des questions que j'ai déjà évoquées et les pistes qu'il propose pour solution sont des pistes qui sont explorables. Il appartient maintenant au gouvernement de mettre sur le budget de l'État ses services, par exemple, de renseignement de proximité qui doit aussi être budgétisé. Aujourd'hui, nous avons les agents qui se disent agents de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, dans nos quartiers, par-ci, par-là, certains ne sont pas matriculés, certains n'ont pas, ils ne sont pas payés. C'est comme ça, parfois, que la complicité fonctionne. Donc, le Kuluna est le reflet d'un malaise profond dans la société kinoise. Le chômage, comme il a dit, la pauvreté, l'absence de politique publique pour la jeunesse, autant d'éléments qui font qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Pour nous, nous pensons, à côté de ce qu'il a proposé, tant que l'approche restera sécuritaire et répressive, le problème pourra toujours demeurer. Il faut combiner la sécurité à la réinsertion. Il faut renforcer la justice avec la police. Une collaboration parfaite doit s'opérer à ces deux niveaux. Il faut développer des programmes d'emploi et de formation de jeunes dans nos quartiers, dans nos communes. Tout converge toujours vers les grands centres-villes. Il faut aussi les engorger et même élargir. Pourquoi toutes les institutions sont à Kinshasa, à Gombe? Pourquoi on ne peut pas avoir d'autres institutions, par exemple à Matadi Kibala, vers la commune de Mongafula, soit en Sélé, soit à Maluku? Ceci pourra aider à ce que les jeunes puissent trouver le moyen de s'en sortir. Il faut restaurer l'éducation civique et la responsabilité des familles, des communautés. Je pense que mon prédécesseur venait d'évoquer le problème des familles en France qui, par moment, sont aussi touchées par ce phénomène et l'État se rabat sur les familles pour résoudre le problème. Donc, il faut impliquer les acteurs, les leaders communautaires du quartier. Donc, dans ce que j'ai proposé tout à l'heure, les états généraux de la criminalité dans la ville-province de Kinshasa s'impose. On a même une ville,
mais
comme si on n'avait pas de
députés
provinciaux, comme si on n'avait pas un gouvernement provincial, on est là dans une situation où l'inquiétude est de façon est presque permanente dans nos quartiers. On dort, on ne sait pas si demain matin on va se réveiller. On circule, on ne sait pas si on va rentrer tel qu'on était parti ce soir. cette incertitude dénote de la faiblesse de l'État. Gouverner, c'est prévoir. Voilà autant d'éléments qui peuvent mettre pour quand même analyser ce problème et trouver des solutions plus efficaces. On a parlé enfin de la police qui n'a pas de moyens. Mais la police actuelle, elle est dans tous les sous-chats. C'est des motos qui entourent tous ces sous-chats. C'est des véhicules qui entourent tous ces sous-chats. Ils n'ont pas le temps d'aller sécuriser les populations. Ils ont le temps de recueillir les 20 000, 10 000 francs qui sont passés. Je peux vous dire, je parle loin. Moi-même qui vous dis, je suis un témoin vivant. Une école construite dans un quartier pauvre, on est allé piller une école. Vous imaginez là où ça nous amène? Donc, nous interpellons l'État de se ressaisir quand il n'est pas en contrat. Sinon, l'État sera géré par des inciviques.
Direction Bukavu, cette fois-ci, pour écouter cet autre auditeur qui est en ligne.
Patrice Munderwa, Kulumushi de la ville de Bukavu, au Sud Kivu. Dans une ville peuplée comme Kinshasa, avec plus de 10 millions d'habitants, où le manque d'accès à l'emploi favorise le banditisme urbain, où les rez-de-chaussée sont envahis par les véhicules en panne et les mesures de tolérance qui servent pour l'abri de Kuluna et autres, une ville où l'on constate le délestage du courant électrique créa donc de l'obscurité dans la capitale. L'insécurité ne peut y être qu'une monnaie courante.
Alidor Chibanda, je vais ajouter cet autre auditeur de Jado et Guilima, aussi de Bukavu, qui pense que la pauvreté ne devrait justifier la criminalité telle que vécue à Kinshasa. Aujourd'hui, il faut une éducation à la base.
Oui, madame, je partage le point de vue des uns et des autres. Mais j'ajoute un élément. Est-ce que les Kuluna, tels que nous les vivons, est-ce qu'ils sont réellement tous?
On vous a perdu, Alidor.
Les Kuluna, est-ce qu'ils sont réellement tous chômeurs? C'est la plus grande question que nous nous posons. J'en doute. Parce que parmi ces Kuluna, il y en a qui sont de bons chômeurs. Parmi ces Kuluna, il y en a qui sont des chargeurs. Parmi ces Kuluna, il y en a qui sont des chauffeurs. Parmi ces Kuluna, il y en a qui sont des receveurs. Mais là où le bas blesse, c'est que ces Kuluna qui ont des métiers, quand ils ont cet argent, ils se rabattent sur la consommation de l'alcool. Parce que dans l'assimilation de la violence, on soumet ces jeunes gens-là à des pratiques qui les amènent à on les socialise, s'il faut dire ça, à la violence. C'est pourquoi je partage le point de vue des uns et des autres, mais j'insiste sur l'élément, sur la prise en charge psychosociale. Et ce que le venait de dire M. Tchombela, lorsqu'il souligne l'éducation civique, c'est un élément très important qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, je lui informe que, au-delà de ça, l'État venait de mettre en place, à travers un décret signé par le Premier ministre, le comité de sécurité locaux et provinciaux. Et dans ce comité-là, on préfère que la société civile, que toute la population soit impliquée dans les décisions qui doivent être prises dans la résolution de problèmes locaux, notamment le problème de sécurité. Tout à l'heure là, on venait de voter une loi portant programmation sur la police. Et j'ai suivi le vice-premier ministre qui a dit qu'il y aura 90 000 formés d'ici 2 ou 3 ans, si ma mémoire est bonne. Tous ces éléments-là participent à l'effort de rendre les services de défense et de sécurité plus efficaces pour prendre en charge le problème de la sécurité. Mais au-delà de ça, nous devons travailler pour asseoir une véritable politique sociale de prise en charge de la jeunesse par les éducateurs des quartiers, les éducateurs des rues, pour amener ces jeunes à prendre conscience de leurs responsabilités. Le troisième problème qui se pose et qu'il faudrait résoudre, c'est le modèle de la société. Les jeunes se réfèrent. Quel est le modèle de réussite dans nos sociétés? Et même vous, le média. Jamais je me viens, mais le média, chercher un professeur d'université, chercher un cadre, un entrepreneur qui a commencé par des biscuits et devenu un grand opérateur économique pour qu'il partage ses expériences. Mais les plus grandes expériences que vous faites, les expériences que vous faites, que vous nous présentez à travers le média, c'est des exemples de politiciens qui, par moment, deviennent ce qu'ils sont par chance et l'occupant. C'est des modèles qui n'inspirent pas à la jeunesse un effort quelconque, qui sont beaucoup plus soutenu et encouragé.
Mais là, je suis pas d'accord avec vous. Les médias présentent aussi des modèles de réussite, hein, Balidor Tshibanda.
Oui.
Les médias présentent aussi des modèles de réussite. Les gens qui ont commencé par une petite table devant chez lui et puis se retrouvent avec des grands magasins.
Je ne cite pas d'autres médias chez vous, mais je suis en train de suivre le modèle qu'on nous présente. La plupart, c'est des gens qui vous disent comment ils sont allés en Europe, comment ils ont fait des cailloux, ils sont revenus au Congo. Mais des gens qui ont réussi au Congo, par les études.
Alors, Alidor Tshibanda, il y a eu plusieurs opérations lancées pour essayer d'éradiquer, si pas freiner, ce phénomène de criminalité dans la capitale, Kinshasa. Pourquoi, d'après vous, toutes ces opérations du mal à réussir?
C'est parce que on ne prend pas beaucoup de temps de réflexion. Il y a une distance qui se crée entre les universités et le pouvoir. Le pouvoir associe difficilement. Moi qui vous parle ici, nous avons un ouvrage, peut-être que le jour où nous aurons le temps de se voir, je pourrais vous le balancer, ou demain je peux vous envoyer un article que nous avons publié dans un ouvrage collectif sur la violence urbaine. Nous avons parcouru toutes les autorités, depuis 2018, je crois, quand l'ouvrage est sorti, pour que nous puissions vulgariser les fruits de nos recherches en vue de proposer des petites politiques publiques par rapport à la prise en charge de la jeunesse, par rapport à la lutte contre la criminalité. Mais ici, c'est dans la précipitation qu'on prend des mesures et qui ne savent pas se vérifier dans la durée. Et c'est ça qui fait qu'on résout tout de suite et tout de suite on arrête parce qu'on n'a pas mûri la question, parce qu'on n'y a pas réfléchi. Il y a plusieurs publications sur le phénomène public.
Merci.
Il y a beaucoup qui ont compris.
Merci. Et on va prendre ce dernier auditeur qui est à Kinshasa.
C'est Ougan Mungwadjou et Gabriel depuis la ville-province de Kinshasa. L'insécurité qui prend l'ascension dans la ville-province de Kinshasa est liée à des facteurs socio-économiques et institutionnels. Socio-économiques sont entre autres le chômage des jeunes, le manque d'encadrement des jeunes, la drogue, etc. Institutionnel n'est rien autre que la faiblesse policière et la corruption de ces derniers. Pour remédier à cela, il faut le renforcement des patrouilles mixtes PNC, FARDC, construction des sous-commissariats de proximité dans les zones à haut risque, numérotation unique de motos pour traquer le braquage, implication des bourgmestres pour les descentes régulières et mise en œuvre des plans locaux de sécurité au niveau communal pour permettre la collaboration avec la population afin de dénoncer les inciviques qui se cachent dans la population.
Alors c'était cet auditeur de Kinshasa, Mathieu Takizala, avant de parler de ses propositions pour freiner cette criminalité. Les rumeurs d'implication des forces de sécurité dans des actes criminels sont de plus en plus fréquentes. Comment on peut expliquer que
Madame, vous savez, les gens
qui doivent protéger la population soient impliqués dans des braquages, des massacres.
D'abord, la police, c'est un métier noble. La police, on ne peut pas recruter parce que quelqu'un n'a pas reçu à l'école. Et on peut donc, pour recruter quelqu'un dans tous les états du monde, minimum, la personne doit avoir le baccalauréat pour qu'il puisse un peu comprendre beaucoup de choses. Mais quand, par exemple, mon compatriote ancien Burkinais parlait et que la plupart de ces gens-là travaillent, ils ont un travail. Quel travail? Le travail de l'informel, c'est ce qu'on dit le travail. Non. Il faut, il y a un existant à Kinshasa. Regardez les petites moyennes d'entreprises qui sont dans la ville de Kinshasa, qui manquent de tout, peut-être main-d'œuvre, tout ça, ainsi de suite, et même le contractuel. Faites de sorte que ces petites entreprises soient dans la totalité de la ville de Kinshasa. Mais quand on laisse une population dans le débrouillandisme, parce que l'économie de la ville de Kinshasa est à 95% dans l'informel, dans tout le secteur, et on le laisse, la petite formalité, c'est dans le monopole. Ceux qui ont dans la formalité, qui ont plus un peu de moyens de l'organisation logistique, c'est eux qui sont dans le monopole. Et à la plupart des secteurs, l'État doit veiller là-dedans. Parce que la consommation congolaise doit créer de la valeur salariale et de la valeur sociale. Mais lorsque la consommation congolaise, nous versons toujours dans la rue, automatiquement, il y a des conséquences. Ça veut dire que, et mon compatriote parle encore de l'exemplarité. Aujourd'hui à Kinshasa, moi je suis un entrepreneur. Ça fait 10 ans que j'entreprends dans ce pays. Mais quels sont, le pouvoir public fait quoi pour les entreprises qui sont dans la ville de Kinshasa? Or que le travail est ici. Vous voyez cette concurrence déloyale qui est dans la ville de Kinshasa. Une entreprise emploie lorsqu'il a le carnet de commandes, lorsqu'il a le travail. Mais lorsque vous laissez que dans tout le secteur et que l'informel gagne des pions, comment vous allez encadrer une population? Ça, c'est un vrai problème. Donc je crois que l'autre fois, les autodidactes qui ont reçu ici les entrepreneurs, parce qu'il y avait travail. Le travail était dans la formalité. Il n'y avait pas une concurrence déloyale. Mais tous les ans, on a des assemblées nationales, des excellents ministres qui restent sur la place de Kalina, mais il faut qu'ils cohabitent avec l'entreprise. La formation ne se limite pas uniquement à l'université ou à l'école. Une autre panache de la formation, c'est l'entreprise. Lorsque l'entreprise joue son rôle social et d'innovation dans le territoire, vous verrez que l'insécurité sera éradiquée, madame. On ne peut pas tolérer. C'est l'unique pays au monde où vous voyez qu'on répare les véhicules dans tout le coin de la rue. Ça inquiète personne. Mais les entreprises qui sont dans la formalité, qui pouvaient cantonner beaucoup de ces jeunes gens, où ils vont trouver le travail? Donc l'État doit empêcher ça. L'État doit faire, l'État lui-même doit être le client des entreprises qui sont dans la ville de Kinshasa, dans tous ses services, même au niveau de Bourg-Comès. Ils doivent avoir aussi une politique d'insertion. Et cette politique d'insertion, ça veut dire que le Bourg-Comès doit protéger le paix d'entreprises qui sont dans son territoire, en faisant des exonérations, en faisant de sorte que la concurrence déloyale soit éradiquée dans nos villes. Mais ce n'est pas le cas. Vous allez voir que ceux qui décide à créer des entreprises en République démocratique du Congo, devient le dindon de la farce collective. C'est-à-dire qu'il n'y a ni le travail pour eux, ni le financement. Et on laisse l'informel. Vous allez voir que ceux qui devaient être grossistes deviennent détaillants. Mais maintenant, ceux qui sont détaillants vont faire quoi? L'autre fois, on faisait émerger la classe moyenne d'affairisme congolais autour, par exemple, de l'industrie brassicole. Les usines fabriquaient, mais les Congolais acheter, mais maintenant aujourd'hui, ça a changé, madame. On voit des camions qui sillonnent 24 heures sur 24, même le dimanche. Or, ce sont dans ces secteurs-là qu'on pouvait créer de l'emploi, qu'on pouvait soutenir les entrepreneurs locaux. Prenons dans l'industrie de la cimenterie. Pareil, l'autre fois, il y avait ce qu'on appelait les fameux dépositaires, madame. Et aujourd'hui, il y en a, on voit le remorque qui sillonne. Et c'est l'usine qui commence maintenant à distribuer. Mais où on va créer de l'emploi? C'est ça le vrai problème. Et on a fait aujourd'hui, là on tourne, c'était l'industrie textile, Itex Africa. Maintenant, on a choisi cette autoroute facile, des containers qui arrivent, et on ne jauge pas que la consommation locale doit permettre la création de la valeur du côté des entreprises et du côté de Donc, quand vous dites qu'ils sont receveurs, ils sont receveurs, ils travaillent dans quelle entreprise? Receveurs dans l'informel. Vous voyez d'abord même pour réguler les embouteillages, monter dans ces taxis jaunes, regardez si ces gens-là sont formés.
Alors, qu'est-ce que vous proposez, Mathieu Takizala, pour freiner la hausse de la criminalité dans la ville de Kinshasa?
Moi, ce que je propose, je demande à l'État de regarder l'existant des entreprises qui sont dans la ville de Kinshasa et de créer des zones franches dans tous les communes de la ville de Kinshasa. De permettre à ces entreprises de s'installer
et dans le 24 communes de la ville de Kinshasa et que l'État accompagne ces entreprises. Il y a des entreprises qui existent mais qui n'ont pas de travail. Et il faut de freiner l'informel, de créer l'entonnoir social autour des entreprises formelles. Et c'est ça qui va permettre qu'on va quantifier autour des entreprises et l'État va trouver des alliés. Mais lorsqu'on va laisser que l'informel puisse être celui qui est l'élément principal dans la ville de Kinshasa, on va avoir toujours le problème. Il faut que les zones industrielles soient dans... On peut faire au niveau des districts, Lokunga, Mwamba, Tiangou, ainsi de suite, et regarder secteur par secteur les entrepreneurs locaux qui sont bien installés, comment on peut les accompagner. C'est ce que tous les États font. Donc si nous, il faut un plan de relance économique du secteur privé de la République du Congo. Merci. Pour que nous puissions quand même donner les occupations salariales. Et puis, cet office public de la gestion des chômeurs, il faut qu'il soit visible. Il n'est pas visible. Parce que recruter dans la ville de Kinshasa, madame, c'est tout un problème. Pourtant, cet office devait permettre aux employeurs d'avoir des gens capables à travailler aujourd'hui. Les ressources humaines de la ville de Kinshasa posent problème. Il faut que cet office qu'on appelle ONEM, qu'on lui donne des moyens. On ne le voit pas.
Merci Mathieu Takizala. Jonas Tchombela, si vous deviez envoyer un message direct aux décideurs ce soir, quel serait-il?
J'appelle les autorités de la République de changer l'approche, de ne pas seulement continuer avec l'approche sécuritaire et répressive. Ils doivent combiner la sécurité et la réinsertion, renforcer la police et la justice, développer des programmes d'emploi et de formation de jeunes, restaurer l'éducation civique dans nos quartiers. Le parti politique doit être impliqué dans l'éducation civique de leurs militants. Le cas du stade de martyrs est très encore dans nos mémoires. Nous demandons aussi qu'on implique la société civile, les leaders communautaires à la base. La combinaison de toutes ces recettes peut nous amener à atténuer ce phénomène qui est dangereux pour notre société.
Merci. Alidor Tshibanda, votre conclusion.
Bon, en évoquant le problème de l'emploi d'emploi précaire, je ne voudrais pas encourager ça, mais je voudrais démontrer qu'au moins avec ce revenu-là, si l'État s'y mettait, ça serait formalisé et ça permettrait à ce que ça soit considéré. Mais dès lors qu'ils sont abandonnés dans ce qu'ils font, c'est là canalisé dans la consommation de l'alcool et ça régénère la violence. Ce n'est pas que j'encourageais ça.
Merci.
Mais ce qui peut être plus intéressant pour le moment, c'est d'encourager ce qui est déjà fait ou ce qui venait d'être fait avec la loi de programmation de la police et l'organisation des comités locaux de sécurité en rendant l'État plus efficace et plus responsable dans la prise en charge, non seulement répressive, mais une prise en charge, comme l'a dit monsieur Tchombela, aussi psychosociale et une dimension économique en formalisant toutes les petites et moyennes entreprises.
Merci Alidor Tshibanda, merci à toute l'équipe de dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer ce magazine, Jean-Claude Nsiala, Enoch Kiatumbi, Nelson Nyombe, Jonathan Fouanani, ainsi que Pierre Diassinois, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Pierre Diassinois. Présentation et coordination, Kéline Couté, restez branchés sur Radio Capi.